Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Mon invité a une vie professionnelle consacrée à la communication, puis à l'immobilier. Fellow de la RIX, il est une des 48 personnalités qualifiées membres du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Immobilier qu'il a décidé d'aborder sous un angle novateur, avec Habitat et Humanisme, et aussi en initiant aux côtés de Philippe Pelletier une profonde réflexion sur l'habitat. Au fond, deux piliers du monde que nous abordons. D'un côté, la ville qui abritera 75% de la population mondiale dans une génération, c'est-à-dire à peu près 7 milliards d'habitants, soit le double de la population urbaine de l'an 2000. Ce n'est pas tout à fait rien. Et un habitat moins solitaire et plus solidaire. Bonjour Patrick Garnier. Deux thèmes sur lesquels je souhaite vous proposer quatre questions, si vous le voulez bien.
Bonjour, bien sûr.
La première, est-ce que vous pouvez nous décrire l'histoire d'Habitat et Humanisme, son objet et ses actions ?
Alors, Habitat et Humanisme, c'est une belle histoire qui a commencé il y a maintenant 36 ans, à l'initiative d'un Lyonnais, Bernard Dever, qui travaillait dans l'immobilier et qui a eu plusieurs intuition et parcours simultanés, consistant à se dire que on n'arrivait pas à résoudre les problèmes du mal logement à travers son métier de promoteur immobilier. Et il a donc eu, dans les années 80, donc il y a maintenant 36 ans, comme je le disais, créé l'association Habitat Humanisme. Alors, dans le même temps, il est devenu prêtre, tout en sachant que ces deux événements sont restés parallèles, puisque Habitat Humanisme est une association non confessionnelle et totalement laïque donc, dans son fonctionnement. Alors, quel est l'objectif d'Habitat Humanisme ? C'est tout d'abord d'avoir comme mission de permettre aux personnes ayant des ressources faibles et souvent très précaires, en raison de leur situation sociale ou en raison d'accidents de la vie, d'accéder à un logement de qualité qui soit adapté à leur situation et à leur situation familiale et à leur situation de ressources. Dans le même temps, c'est de proposer aux locataires que l'on va ainsi loger un accompagnement personnalisé qui leur permette de se rapprocher d'une vie sociale entre guillemets normale et notamment de permettre cette fameuse insertion sociale. Et enfin, ces logements, on va essayer de les construire ou de les mobiliser, puisqu'on travaille également avec des logements qui sont mis à notre disposition par des propriétaires, par des bailleurs qui ont envie de nous confier cette gestion, dans des quartiers ouverts dans la ville, de manière à faciliter l'intégration dans des quartiers qu'on appellera équilibrés. C'est-à-dire que on va fuir les ghettos sociaux et on va essayer d'être dans la vraie vie, dans la vraie ville. Ça, c'est l'histoire de ces 37 dernières années. Alors, peut-être que pour illustrer, il faudrait donner quelques chiffres, tout en sachant qu'on est donc sur un modèle mixte qui fonctionne, qui a été initié par des bénévoles. Donc, c'est un mouvement dans lequel les bénévoles pèse extrêmement lourd. On en a près de 5000 aujourd'hui sur tout le territoire national. Mais dans le même temps, on a près de 1800 salariés. Donc c'est devenu aussi une entreprise d'implantation nationale et même internationale, puisqu'on a une implantation en Belgique et au Luxembourg. Nos particularités, c'est que ça fait de nous, à travers les 9500 logements que nous gérons ou possédons, ça fait de nous un petit bailleur social à l'échelle nationale, mais l'originalité, elle n'est pas là. C'est-à-dire que, certes, nous sommes des bailleurs sociaux, mais nous avons, dans nos particularités, le fait de loger des gens en situation très difficile. Et on va dire que plus des trois quarts des personnes que nous logeons sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça implique des solutions adaptées. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, et c'est grâce à l'appui de nos bénévoles qu'on arrive à le gérer, un accompagnement très fort de ces personnes, sachant qu'on a deux types de logements, des logements dits transitoires ou temporaires, qui permettent pendant une durée qu'on espère limiter à 2-3 ans, de faciliter l'insertion de gens qui n'ont jamais habité dans des logements normaux, soit ils étaient logés chez des tiers, soit ils étaient dans des hôtels sociaux, soit ils étaient à la rue pour certains. Et on va essayer de les adapter, de les acclimater à une vie sociale en collectivité plus normale, de manière, dans un deuxième temps, à les mettre dans des logements sociaux toujours, adaptés à leurs revenus, mais pérennes. Donc cette double plateforme entre le logement temporaire et le logement pérenne nécessite qu'à chaque fois que l'on s'implante quelque part, on puisse avoir les deux types de logements. Parce que lorsque vous avez logé quelqu'un dans une ville, il est très difficile, à titre temporaire, il est très difficile 2 ans après de lui dire « Ah bah écoutez, maintenant la solution pour vous, elle est à 20 km de là ». Parce que tout ce que l'on aura fait en termes d'efforts d'insertion sociale ne fonctionnera plus.
Donc il faut quelque chose, un logement, un deuxième logement pas trop éloigné et disponible à un certain moment.
Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait, nous, fabriqué les deux. Et ce qui rend difficile notre implantation dans les zones extrêmement tendues et dans les villes carencées, parce que dans les villes carencées, on va savoir parfois, et c'est très compliqué, si on arrive à disposer du foncier nécessaire, créer les logements temporaires nécessaires. Mais qu'est-ce qu'on fait après, puisque par définition, dans la ville en question, il y a très peu de logements sociaux.
Alors c'est une excellente liaison avec ma deuxième question, qui était de comprendre quel est le champ territorial, puisque bon, je comprends bien qu'avec ce nombre de bénévoles et de salariés, ça ne se limite pas à Lyon. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure national et international. Absolument. Sur le plan national, quel est le champ territorial ?
Alors, 56 associations, la plupart départementales. Puisque même l'association historique qui est très importante, qui est celle du Rhône, ne couvre qu'un seul département, celui-là, celui d'origine. Une différence avec l'Île-de-France qui regroupe les 8 départements de franciliens. Et sinon, les associations couvrent la plupart du territoire avec quelques zones qui ne sont pas couvertes, qui sont des zones où il y a moins de besoins, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de besoins, il y a toujours des besoins de logements sociaux en France. Donc 56 associations, certaines très petites, fonctionnant avec quelques bénévoles, d'autres beaucoup plus structurées. En Île-de-France, pour vous donner un exemple, c'est 110 salariés et 650 bénévoles. Donc on voit bien que... mais on doit répondre également à une demande qui est considérable, puisque la seule Île-de-France regroupe aujourd'hui 720 000 demandes de logements sociaux non satisfaites.
Terrifiant.
Donc on a un petit peu de travail encore et on est, malgré nos efforts, on est très loin du compte.
Merci beaucoup. Alors je voudrais qu'on consacre le temps qui nous reste à parler de vos réflexions, vos recherches, vos travaux sur l'habitat, en particulier à propos d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Philippe Pelletier, L'habitat choisi, et si nous changions nos habitudes. Voilà quelques mots qui en disent assez long, et en tout cas qui nous interpellent, comme on dit aujourd'hui, c'est aux éditions PC. D'ailleurs, au mois de décembre de l'année dernière, il y a eu un article du Moniteur sur ce thème, sous forme d'une interview dans laquelle vous aviez donné quelques-unes des réflexions de votre ouvrage, dans lequel je lis, avant même l'introduction, « Nous ne pouvons plus habiter aujourd'hui comme avant. Il y a une urgence de changer nos façons de faire ». Donc on voit bien que c'est un ouvrage, j'allais dire engagé, au très bon sens du terme, qui n'est pas simplement une description de la situation, mais qui est une prise de position pour ce qu'il faudrait essayer de regarder. Est-ce que c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on l'a voulu avec Philippe Pelletier. C'est un manifeste, c'est pas un manifeste politique. C'est un manifeste par rapport à une situation qui ne nous convient pas et qui ne fonctionne pas. Et à travers laquelle on voit que malgré les efforts souvent louables des politiques au fil des années, le problème n'a jamais été réglé. Et il paraît tellement technique que les politiques ont du mal à s'en emparer et qu'ils ont cherché à tour de rôle et avec beaucoup de bonne volonté, mais pas toujours beaucoup d'efficacité, la mesure fiscale miracle qui permettrait de régler le problème.
Les gens de notre génération, les boomers, ont toute leur vie entendu ce sujet, toujours cette même question. Alors, que faire ?
Alors, aujourd'hui, on entend dire, et c'est quand même troublant dans une période préélectorale, que tous les candidats disent « oui, le logement est une priorité ». Quand on regarde les propositions, soit il n'y en a pas, soit elles sont confuses et elles n'apportent pas grand-chose au débat. Bon. Nous partons d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la bonne volonté politique, quelle qu'elle soit, a toujours été manifestée par « il faut créer un choc de l'offre ». Bon. Alors, c'est un vœu tout à fait louable. On est tous conscients, et notamment les professionnels de l'immobilier, qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez. Il y a de multiples raisons à cela. On ne va pas les énumérer ici. On les connaît tous, mais c'est une réalité à laquelle on ne peut pas s'opposer. Est-ce que c'est suffisant pour autant ? Nous pensons que non. Parce que d'abord, il n'y a pas la mesure miracle qui va créer ce choc de l'offre. Et qu'ensuite, il faudrait peut-être regarder du côté de la demande et de savoir comment on va satisfaire la demande. Alors, c'est toujours un peu périlleux de s'aventurer sur ce terrain parce que ça voudrait dire que finalement, l'offre, c'est pas si important que cela, alors que je viens de citer le chiffre des logements sociaux insuffisants. Mais on est un peu resté en 1954, quand l'abbé Pierre a poussé son coup de gueule, qui était bien sûr évidemment légitime, et que par la suite on a eu à gérer l'arrivée des rapatriés. C'est évident qu'il fallait produire, et à la limite produire tout ce qu'on pouvait produire, quelle que soit la qualité, quelles que soient les circonstances. Bon. Aujourd'hui, on a toujours ce besoin massif de production concernant le logement social. Et après, on a un problème d'adéquation avec la ville, d'adéquation avec la demande. Et là, on pense qu'on est encore assez loin du compte. On ne tient pas compte des changements sociaux, sociétaux qui se sont opérés et que la crise sanitaire a mis assez brusquement en avant ces dernières années.
Peut-on prendre deux ou trois exemples ?
Oui, aujourd'hui, on a une difficulté à obtenir des permis de construire. Tous les promoteurs vont venir le dire. Soit parce que, d'abord, on a une difficulté qui est de trouver du foncier, mais on refuse l'idée de dire que le foncier, qu'il y aurait une pénurie de foncier. Il y a une difficulté à trouver du foncier, il n'y a pas de pénurie. Bon. C'est la mobilisation de ce foncier qui est compliquée, qui ne se fait pas bien, d'où son coût. Et ensuite, il y a la manière dont on essaie de régler les problèmes. Le promoteur que je suis aussi... Il a tendance, lorsqu'on lui propose un foncier, à regarder ce qu'il va pouvoir construire. Donc à optimiser la constructibilité d'un terrain. Qu'est-ce qui vient lui dire aujourd'hui, ce qui serait nécessaire dans cette ville pour qu'elle soit bien équilibrée, c'est peut-être de mélanger des bureaux et des logements, d'avoir des tiers-lieux qui permettraient aux gens de vivre dans leur quartier. Moi, je trouve très inspirante la notion développée par Carlos Moreno avec la ville du quart d'heure, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu environnemental, c'est de permettre aux gens d'avoir dans une même unité de lieu et de temps la plupart des solutions à leurs besoins de la semaine. Les besoins exceptionnels, ils iront les trouver ailleurs. Donc aujourd'hui, on est très loin de ça.
C'est effectivement un exemple tout à fait pertinent, tout à fait frappant. Et vous ouvrez des pistes de réflexion, de travail, etc., de ce qu'il faudrait faire ?
Alors, dans ce que l'on imagine, on fait des propositions, mais c'est plus des propositions de méthode que de dire, voilà, on a la recette qui permet de faire je ne sais pas quoi. Je disais tout à l'heure, on ne croit pas à la recette fiscale universelle.
Ça se saurait, oui.
Et l'un des constats qui nous semble très important et qui est très compliqué pour l'État, c'est de dire il n'y a pas une solution unique nationale. Il y a des territoires avec leur diversité et donc les solutions doivent se trouver avec les acteurs locaux, avec les élus, qui aujourd'hui sont très souvent malthusiens, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont qu'à dire oui ou non à une demande de permis de construire. Peut-être que s'ils étaient... plus intégrés dans un processus en amont, ils joueraient mieux le rôle que l'on aimerait qu'ils jouent. Donc il y a un problème en amont. Il y a le problème de la densification de la ville, parce que soyons sérieux, on ne peut pas d'un côté prôner la non-artificialisation nette des sols et de l'autre côté dire que quand le PLU prévoit 5 étages, si on en fait 3, ça sera beaucoup mieux. Ça ne fonctionne pas. De toute manière, il faut construire, donc on fait comment ? Soit on s'étale, soit on monte. Bon. On n'a pas encore trouvé d'autres solutions. Ce qui ne veut pas dire que lorsque l'on va monter, la ville va devenir inhumaine. Il ne s'agit pas d'empiler les gens et des solutions, il s'agit de mieux gérer l'espace.
Très bien, eh bien, ça donne tout à fait envie d'en savoir plus et de lire l'ouvrage. À propos d'ouvrage, vous développez aussi différentes publications dans le cadre du plan bâtiment durable. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous en dire quelques mots ?
Alors, il y a une volonté au sein du plan bâtiment durable et qui est de dire on a besoin de communiquer et de communiquer simplement à des publics très différents, très variés, qui peuvent aller de l'utilisateur d'un logement à celui qui va le construire, en passant par les élus, en passant par ceux qui vont concourir à la réalisation des lieux de vie, mais également à leur réhabilitation, parce que l'enjeu de demain, et pour le plan bâtiment durable, il est considérable, c'est de penser la rénovation, parce qu'avant de démolir et de reconstruire, à chaque fois que l'on peut, on va essayer de réhabiliter. Donc on a développé une petite collection, je dis petite parce que ce sont des petits ouvrages, c'est 64 pages, c'est... L'ambition n'est pas de tout savoir sur un sujet, mais de permettre à des gens très différents d'avoir une vision d'un sujet qui peut les préoccuper. Alors le premier de ces ouvrages, c'est les parutions de 2021, ça a été un ouvrage sur la rénovation des écoles, parce que c'est un sujet auquel sont confrontées toutes les collectivités locales. Et là, on s'aperçoit que c'est la principale passoire thermique de la plupart des communes, ce sont les écoles. Donc il y a un vrai sujet, que c'est un sujet compliqué pour les collectivités, pour les petites villes en particulier, parce que ça coûte cher, qu'ils ne savent pas comment faire. Est-ce qu'on détruit ? Est-ce qu'on reconstruit ? Est-ce qu'on réhabilite ? La question se pose et toutes les écoles n'ont pas un caractère architectural qui nécessite de les conserver, mais dans bien des cas, ça peut être quand même la meilleure solution.
Et c'est aussi un excellent apprentissage pour les enfants, ce cadre déjà début de cadre urbain.
Donc ce premier ouvrage, on l'a fait réaliser par deux architectes qui se sont spécialisés dans cette question, ouais. Christian Hackel, Maud Saint-Père. On a fait un deuxième ouvrage sur la surélévation, et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il fallait construire un peu plus haut pour construire, pour mieux utiliser la ville. Et là, c'est un architecte, François Pellegrin, qui est vraiment très impliqué dans ces questions-là et dans les problèmes environnementaux, qui a réalisé cet ouvrage qui s'appelle « Le bonheur est sur le toit » et « La surélévation raisonnée », c'est-à-dire comment vaincre les différents obstacles qui peuvent se poser à une copropriété comme à des bailleurs ou des propriétaires.
Très beau sujet.
Et puis le troisième ouvrage paru fin 2021, c'est sur la valeur verte, qui est un concept qui a été un peu galvaudé au fil du temps. On ne savait plus très bien ce que c'était, mais aujourd'hui, il reprend vraiment de son importance. Les notaires nous le disent et disent que ça commence à impacter sérieusement les valeurs du résidentiel. Et on sait que dans l'immobilier tertiaire, le sujet est sur la table parce que d'abord, il y a un décret tertiaire qui s'impose à tous. Et ensuite, il y a la nécessité de rendre les immeubles, d'éviter que les immeubles deviennent obsolètes, ce qui nécessite des réhabilitations certaines. On a trois autres ouvrages en préparation. Le prochain à paraître sera sur la rénovation des copropriétés, parce que là encore, on se heurte à un sujet qui est compliqué, parce que le temps qu'il faut pour obtenir l'accord d'une assemblée générale, il faut plusieurs assemblées générales, donc plusieurs années. Comment on le finance ? Le fait qu'il y a des propriétaires qui n'habitent pas dans l'immeuble et qui souvent se désintéressent de l'immeuble, etc. Après ça, on aura un ouvrage sur le nouveau DPE et la nécessité d'avoir un indicateur fiable pour évaluer nos immeubles sur le plan énergétique et environnemental. Et enfin, un troisième, toujours en 2022, sur la RE 2020, parce que c'est évidemment l'un des grands enjeux des années qui viennent. Voilà les prochaines parutions prévues dans cette collection.
On voit à travers ces titres que évidemment, l'essentiel est sur la filière construction, avec toute la technicité nécessaire, etc., mais que ça ne se limite pas à ça non plus, et que, j'ai envie de dire, toute la filière immobilier, droit, marché, financement, etc., etc., oui, a aussi son importance. Donc c'est aussi une façon, peut-être, de rapprocher les deux, qui sont assez différentes et assez chacune dans son silo.
Non, non, mais on voit bien que sur les sujets de réhabilitation, on touche au financement, on touche à la fiscalité, on touche au droit, on a tous les sujets qui sont sur la table.
Merci Patrick Garnier, à bientôt.
Merci bien.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.